métadonnées, est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce qu'il y a un vocabulaire contrôlé où les gens peuvent mettre vraiment n'importe quoi?
Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Et au départ, il y avait des contraintes, oui. Mais quelle méthode? C'est mon temps de parole, c'est fini. Quelle métadonnée en rentrée déjà? Comment définir les métadonnées? Et la discussion avec les scientifiques pour qu'ils nous définissent leurs métadonnées, c'est pas si simple que ça. Chacun voit quelques métadonnées. Pour l'homogénéiser, on avait fait un prototype en définissant notre vocabulaire et les contraintes et la manière d'extraire les métadonnées des données produites. Donc on essayait d'aligner le vocabulaire, mais même ça, c'est pas si évident.
Ah.
Alors, il y a plusieurs parties. Les données scientifiques, évidemment, c'est des formats très particuliers. C'était à nous d'aller chercher dedans. On avait fait simplement un système avec des expressions régulières. Donc, va chercher telle ligne parce que à telle ligne il y a la résolution de l'image ou à telle ligne il y a l'info qui est pertinente, le nombre de pics, ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est vraiment manuel. Mais sinon, il y a des outils, oui, pour extraire les métadonnées, notamment des images. Moi, j'étais parti sur un outil qui s'appelle ExifTool, qui reconnaît vraiment plein de formats de métadonnées. Et puis, il y a un projet de chez Apache Tika, l'objectif, c'est d'extraire les métadonnées, et qui se retrouve depuis la dernière version dans Alfresco. Donc, par exemple, quand une image est soumise dans Alfresco, déjà, il y a toute une liste de données qui est extraite. Mais avant d'aller si loin que ça, finalement, mettre un titre, un auteur sur un Word, et parce qu'il est extrait automatiquement, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Et on se retrouve avec plein de documents qui sont par exemple écrits par INRA ou Monsieur Machin. On ne sait pas du tout qui c'est. Donc, déjà faire en sorte que les gens deviennent conscients que quand ils créent un Word, il y a déjà un certain nombre d'infos qui va être extraite et que ça va suivre le document, c'est le début.
Tu as parlé d'un système ouvert et tu voulais éviter l'effet silo.
Oui.
Est-ce que tu as l'expérience de l'utilisation de ce système Alfresco pour faire des collaborations entre plusieurs centres, ou plusieurs laboratoires, par exemple?
Non, pas encore.
Pas encore.
D'accord. J'aimerais bien. Enfin, je veux que les données. Enfin, je voudrais qu'on puisse pointer sur les données et que les gens aient des droits d'accès pour les voir. C'est pas s'échanger des mails en disant la donnée, elle est là, je te l'enverrai si tu. Enfin, c'est simplifier les choses. C'est la donnée, elle est là, elle est ouverte, quoi. Ouverte mais sécurisée. Alors, c'est la nuance, c'est pas où est la frontière en fait.
Est-ce que vous attribuez des identifiants pérennes à vos données afin de faciliter leur...
Non, pas encore. Pour l'instant, non.
D'accord.
Mais on fait beaucoup de choses sans être spécialiste de quoi que ce soit en fait. Donc il y a certainement des recommandations à préciser ou on avait discuté pour s'aligner par exemple sur ISATool, sur la manière de percevoir les métadonnées. Bon, c'est en stand-by.
Alfresco, c'est en fait ici. Alfresco, c'est en fait où offre des services à la cloud en fait.
Il y a aussi une version cloud, oui.
Ouais, je suis en train de voir sur le web. Et les données, ils sont stockées.
Là, c'est ce qu'ils appellent on-premise, en local.
Les données sont déstockées où?
Les données dans Alfresco, en fait, il y a données, ce qu'on va appeler les fichiers.
Oui, les fichiers.
Les fichiers, ils sont là où on veut bien les mettre, dans un répertoire et classés par année. Donc nous, nos données...
Non, mais géographiquement.
Géographiquement, nous, elles sont sur un NAS qui est dans une pièce gérée par
notre ICE. Rennes, ouf.
Ah non, là, c'est Nantes.
Nantes.
Nantes sur notre site INRA, en fait. C'est
donc
nous qui gérons notre
Alfresco. Donc tous les données sont à Nantes.
Oui.
D'accord, et vous avez un contrôle...
Moi, je voudrais juste une précision sur les données. Quand vous dites les données, c'est uniquement les fichiers, sauf que toutes les métadonnées sont dans une base ailleurs. C'est-à-dire quand on soumet quelque chose dans Alfresco, les métadonnées et les données sont éclatées. Il y a vraiment le contenu du fichier qui est classé, renommé par date. Tu fais du copy and write donc sur un serveur, sur un NAS dédié. On pourrait très bien le laisser en local, mais c'est des paramètres à préciser. Le reste va dans une base de données qui peut être aussi ailleurs. Enfin,
oui, est-ce que vous avez un contrôle sur la confidentialité, la sensibilité des données que vous stockez?
Oui.
Parce qu'il y a des clients de partout dans le monde, donc il faut stocker ce qui est permis par la loi d'être stockable comme ça.
Enfin, des clients partout dans le monde, on n'en est pas là. Enfin, je sais pas, je connais peut-être pas exactement la liste de leurs clients, mais... Et puis pour l'instant, ça reste théorique, il est ouvert simplement à INRA. Donc, c'est nous qui définissons les droits, donc a priori, je pense qu'il c'est un problème qui doit être réglé facilement, ça.
Moi, j'avais une question, s'il n'y a pas d'autres questions. Vous envisagez de basculer les données qui sont sur le NAS directement dans Alfresco?
C'était l'idée au départ.
Risques et avantages?
Ben, l'idée, c'était de conserver au sein de la demande d'analyse, d'avoir un tout homogène, en fait. Et la donnée, et les données projet autour, et d'avoir la donnée brute qui est ici aussi.
D'accord. Et quel serait le principal avantage de stocker tout dans Alfresco?
D'avoir tout dans un entrepôt homogène, tout avec les mêmes types d'URL, l'accès sécurisé de la même manière. C'est un tout homogène, en fait. Moi, je voulais plutôt ça, oui. L'homogénéité.
Donc c'est un choix qui est effectué ou pas encore?
On l'avait fait, puis on s'est un peu calmé, en fait.
Pourquoi?
On fait marche arrière. À cause de l'application en tant que telle. C'est-à-dire, à partir du moment où, si on a des, là, il y a plus de 300 gigas, je crois, dans Alfresco. Quand il faut faire les mises à jour, quand on a des bugs, on a certains bugs qui paralysaient Alfresco. Si on se retrouve avec les données et des teras à mettre dedans, faire des évolutions de version, on va attendre de l'avoir fait quelques fois pour être bien sûr. C'est juste un côté prudent, en fait.
Je pense que le fait de vouloir un point unique, entre guillemets, d'entrée ou quelque chose d'homogène, c'est plus au niveau... moi, je le vois plus comme ça, mais plus au niveau virtuel, au niveau utilisateur, où on aime bien avoir un seul point d'entrée et quelque chose qui paraît autre homogène. Par contre, derrière, ça n'implique pas forcément que tout soit hébergé sous la même solution logicielle ou des choses comme ça. Non, enfin, je pense qu'effectivement, on le voit, c'est pas fait pour forcément héberger des grosses datas.
Certains gèrent beaucoup des grands volumes, des vidéos, etc. Donc, mais de là à mettre nos... C'est vrai que la masse pose quand même beaucoup de problèmes. Les autres, non. On pourrait très bien les mettre dedans, il n'y a pas de souci. Mais si on produit des terras et des terras, sachant que maintenant, si l'application est utilisée aussi pour les documents de la vie de tous les jours, quand il y a un audit, pas très rassuré. On a déjà eu le cas où Alfresco était un peu paralysé à quelques jours de l'audit. on aimerait mieux éviter.
Et puis après, si on met les données brutes ou pré-analysées dans Alfresco, il faut quelque part les relier sans doute à des logiciels ou à des outils pour pouvoir en faire quelque chose. Donc,
ça, c'est l'éternel de problème. Est-ce qu'il faut qu'ils soient en local, sachant que les logiciels pour les lire, c'est des grandes discussions, ça aussi. Les logiciels, ils sont en local. Si on les met dans Alfresco, quel intérêt? Il va falloir les récupérer. Sachant que les clients, même les clients, ont-ils un intérêt à accéder à leurs données? Ça, c'est, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça, moi, à mon niveau. Est-ce que les clients devraient avoir accès à leurs données, sachant qu'ils pourront pas les lire eux-mêmes, parce qu'ils ont pas le logiciel pour l'interpréter? Peut-être que oui, quand même.
Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez le même choix d'Alfresco?
C'est marrant, avant j'avais une slide en disant si c'était à refaire, est-ce que je prendrais encore Alfresco? Je l'ai supprimé pour aujourd'hui. Et je répondais, peut-être. Je sais pas, il y a peut-être d'autres spécialistes maintenant, partiraient peut-être sur, tu sais, j'ai oublié le, comment il s'appelle?
F0.
Mais à l'époque, il n'y avait pas, donc, non, il y a des côtés bien, comme, il y a beaucoup de composants open source intégrés dans Alfresco, c'est plutôt pas mal. Donc peut-être que oui. Sauf si quelqu'un me dit « Non, utilisez ça. » Non.
Bonjour. Est-ce que vous savez qu'il existe aussi une instance d'Alfresco développée par la DSI de l'INRIA qui s'appelle Partage et qui est aussi faite pour les scientifiques qui ont envie de partager leurs données?
Ben non.
Ben voilà.
Ça y est. Donc il faut que je parte vers cette... Donc je change pas d'Alfresco, mais je change d'instance d'Alfresco. C'est ça.
Je vous conseille de contacter Didier Faugeron, du coup, qui travaille à la DSI.
Je savais que l'Alfresco avait été utilisé à l'INRIA avant de faire le choix, en fait. En disant, regardez, c'est utilisé à l'INRIA, ils sont plus forts que nous, donc on va le prendre.